Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Le pape Léon et le tome à Flavien. Nous avons fait la dernière fois le récit du honteux brigandage d'Éphèse. C'est ainsi que le pape Léon avait appelé l'assemblée convoquée par l'empereur Théodose II et qui avait réhabilité Eutychès sans tenir compte ni de la condamnation de sa doctrine, ni de la mise au point dogmatique que Léon lui-même avait fait parvenir au patriarche de Constantinople Flavien et qui restait dans l'histoire sous le nom de Tome à Flavien. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher plus en détail sur cette belle figure du pape Léon et sur sa théologie, car c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un pape est non seulement un défenseur de la foi, ce que sont tous les papes, mais aussi un très grand théologien doublé d'un très grand saint, ce qu'ils ne sont pas tous. Nous savons peu de choses sur ses origines, si ce n'est qu'il était peut-être natif de Toscane, cette belle et douce région d'Italie dont la capitale est Florence, et qui deviendra beaucoup plus tard le berceau de la Renaissance et de la langue italienne moderne. Mais l'époque qui voit naître Léon n'est pas une époque de douceur de vivre. C'est une époque tourmentée, celle de la fin d'un monde et de l'émergence d'un monde nouveau. Né entre 390 et 400, le jeune Léon a sans aucun doute perçu l'écho de l'événement inouï survenu en 410, non loin de chez lui, la prise de Rome par les Visigoths d'Alaric. Et 15 ans après la mort de Léon, survenu en 461, le roi Odoacre déposera le dernier empereur romain, un enfant de 14 ans qui portait, ironie du sort, le nom prestigieux de Romulus Augustule, et renverra dédaigneusement à Constantinople les insignes impériaux, désormais devenus sans objet. Ces bouleversements radicaux dans l'histoire de l'Europe devaient faire de la vie de Léon inséparablement une vie de pasteur théologien, de grand spirituel et de politique avisé, trois types d'hommes qui nous font cruellement défaut aujourd'hui. Il mérite donc qu'on s'intéresse particulièrement à lui. Chez lui, c'est le pasteur qui est premier. Un pasteur qui va se retrouver propulsé par surprise à la plus haute charge dans l'Église. Après d'excellentes études classiques, il écrit un latin digne de Cicéron, il n'est encore que diacre de l'Église de Rome quand on l'envoie pour une mission de réconciliation en Gaule du Sud. Et c'est là que le 19 août 440, il apprend coup sur coup que le pape Sixte III vient de mourir et que lui-même, Léon, vient d'être élu par le clergé de Rome pour succéder au pape défunt. D'autres que lui auraient pris la fuite, mais il obéit, il s'empresse de rentrer à Rome et il est intronisé le 29 septembre dans son pontificat. L'homélie qu'il prononce ce jour-là nous a été conservée. Il dit sa reconnaissance pour la confiance qu'on lui témoigne et il ajoute « Je vous le demande par les miséricordes du Seigneur, aidez de vos prières celui que vous avez appelé de vos vœux, afin que l'Esprit de grâce reste sur moi et que votre jugement n'ait pas à changer. » Humilité et détermination sont deux qualités dont il ne se départira jamais. Il a aussi le sens de la grandeur de sa charge. Il a cette belle parole « Dans l'Église universelle, Pierre continue à dire quotidiennement « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Une parole d'autant plus bouleversante que moins de 11 années plus tard, dans un des plus grands conciles de l'histoire de l'Église, où il jouera un rôle décisif à Chalcédoine, tous les évêques assemblés s'écrieront d'une seule voix « C'est Pierre qui a parlé par la bouche de Léon ». Jusqu'à la fin des temps, nous en avons l'assurance, la voix de Pierre ne se taira jamais. Mais n'allons pas trop vite. Pour le moment, Léon, tout juste élu pape, s'emploie à veiller à la foi sur son diocèse de Rome et sur toutes les églises. On a gardé de lui 97 sermons répartis en fonction de l'année liturgique et 143 lettres qui traitent de questions doctrinales ou disciplinaires et dont certaines sont de véritables traités. Il règle les différends, il réfute les erreurs, il se bat pour la justice et l'intégrité des ministres de l'Église. Il veille à la beauté de la liturgie, à la restauration des basiliques, à la rénovation de la vie monastique, à l'hospitalité accordée aux pèlerins. Une lettre de Léon est d'une importance toute particulière, celle à laquelle j'ai déjà fait allusion, qu'il adresse en 449 à Flavien de Constantinople au sujet du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Après le concile d'Éphèse, qui a beaucoup insisté sur la divinité du Christ, et contre l'hérésie de Tychès qui fait disparaître son humanité, il faut sauvegarder le paradoxe chrétien d'un Christ qui est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme, et pleinement les deux. Léon était très au courant des controverses christologiques puisque, quand il n'était encore que diacre, il avait commandé à Jean Cassien, l'abbé de Saint-Victor à Marseille, de le renseigner sur l'hérésie de Nestorius. Cassien avait examiné le dossier avec soin et il avait répondu par 7 livres sur l'incarnation du Seigneur. À Rome même, Léon pouvait échanger avec un autre connaisseur de ces questions, son secrétaire, Prosper d'Aquitaine, un grand penseur, disciple de saint Augustin. Et c'est à partir de ces informations rassemblées avec soin et de ses réflexions personnelles que Léon a rédigé le tome à Flavien. Tome veut dire lettre, rappelons-le. Ce texte montre à quel point le pape est conscient des enjeux. Il dit que l'hérésie de Tychès menace notre unique espérance et le mystère du salut de tous les hommes, rien de moins. Le tome à Flavien est en 4 parties. Une introduction qui dénonce l'ignorance et l'impudence de Tychès, puis un développement sur les 2 natures du Christ unies en une seule personne et conservant chacune toutes ses propriétés. En 3e lieu, un nouveau développement sur l'articulation des 2 natures, chacune faisant, je cite, ce qui lui est propre en communion avec l'autre. Et en conclusion, l'affirmation que ce qu'on dit du Fils de Dieu peut être dit de l'homme Jésus et réciproquement, ce qu'on appelle les appropriations. Ainsi, on doit affirmer que le Fils de Dieu est venu au monde, que bien qu'il soit éternel, il a commencé d'exister dans le temps, que bien qu'il soit le Seigneur, il s'est fait serviteur et même esclave, que bien qu'il soit immortel, il s'est soumis aux lois de la mort. En somme, qu'il a pris tout ce qui est nôtre à l'exception du péché. Et que celui qui est vrai Dieu est le même qui est vrai homme, car, je cite encore, de même que Dieu n'est pas changé par sa miséricorde, de même l'homme n'est pas absorbé par la majesté divine. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et ainsi il est vrai médiateur, car un médiateur doit être partie prenante de l'une et l'autre réalité qui l'unit et réconcilie. Un simple intermédiaire n'est pas un médiateur. L'intermédiaire n'est ni l'un ni l'autre, le médiateur est l'un et l'autre, en l'occurrence Dieu et homme. On voit que par toutes ces mises au point, la pensée de saint Léon sur le Christ vise à sauvegarder la réalité du salut. Le réalisme de notre salut exige la pleine consubstantialité du Christ avec les hommes, tout comme sa parfaite égalité avec le Père. Si sa mort doit nous sauver, il faut qu'il puisse mourir d'une vraie mort d'homme. On voit aussi qu'avec saint Léon, pour la première fois dans l'histoire, c'est la théologie de l'Église d'Occident qui vient au secours de celle d'Orient. En effet, saint Cyrille avait encore beaucoup de mal à tenir ensemble les affirmations qui se rapportent à l'humanité du Christ et celles qui se rapportent à sa divinité. Le pape Léon, lui, dispose de critères théologiques qui lui permettent de distinguer sans séparer ce qui est humain et ce qui est divin dans le Christ. C'est la formule célèbre « une personne en 2 natures » où le mot le plus important est peut-être le petit mot « en 2 natures ». Le Christ n'existe pas à partir de 2 natures, il subsiste en elle. Et si saint Léon parvient à cette synthèse, c'est parce qu'il a une idée plus claire de ce qu'est la personne. Il a pu dire « ce que croit et enseigne universellement l'Église catholique sur le mystère de l'incarnation du Seigneur se trouve pleinement contenu dans la lettre que j'ai écrite à mon frère et collègue Flavien. » Pourtant, ce texte ne se présente pas comme une définition dogmatique ex cathedra, c'est le Concile de Chalcédoine qui lui conférera ce statut pour la postérité. Nous avons déjà raconté l'histoire du coup de force que Léon a dénoncé sous le nom de brigandage d'Éphèse. La prochaine fois, nous traiterons du Concile de Chalcédoine, où les pères acclameront son enseignement en s'exclamant « C'est la foi des pères, c'est la foi des apôtres, nous croyons tous ainsi, les orthodoxes croient ainsi, c'est Pierre qui a parlé par la bouche de Léon. » Mais concluons pour aujourd'hui en rappelant la suite et la fin de la vie de Léon. Il doit annoncer le Christ à un peuple souffrant, abandonné par un empereur d'Occident qui s'est réfugié à Ravenne et qui ne détient plus qu'un pouvoir nominal. Alors que les barbares pénètrent toujours plus avant dans ce qui avait été l'Empire romain, la papauté reste seule debout pour leur tenir tête. En 442, Léon s'était rendu avec une délégation à Mantoue, au-devant d'Attila, vainqueur, et avait obtenu de lui qu'il évacue l'Italie moyennant le paiement d'un tribut. 13 ans plus tard, en 455, c'est auprès du roi Genséric qu'il interviendra pour que les hordes des Vandales renoncent à livrer Rome au pillage. Il aura soin à la même époque d'organiser des secours publics en faveur des pauvres et des réfugiés qui affluaient vers la ville. C'est ainsi qu'il sera le premier pape à mériter le titre de « Defensor Civitatis », défenseur de la cité. En tout cela, l'Église n'aura pas cherché à se substituer au pouvoir civil, elle aura simplement pallié la défaillance d'un pouvoir qui déjà n'existait plus. Elle aura aussi fait œuvre d'évangélisation auprès des populations qui déferlaient sur le monde romain. L'accueil des migrants n'est pas une invention du pape François. Ce triple labeur de vigilance, d'accueil et d'évangélisation sera traduit symboliquement à 461, date de la mort de Léon après 21 années de pontificat. On l'ensevelira dans la basilique Saint-Pierre, mais en plaçant son corps près du vestibule de l'entrée, afin, dit le pape Sergius dans son épitaphe, qu'il garde la porte de l'Église et veille comme un bon pasteur sur le troupeau de Jésus-Christ, continuant de sa tombe, comme il l'avait fait durant sa vie, à écarter le loup perfide qui voudrait dévaster le bercail de Dieu. Tel a été saint Léon le Grand, et tel il demeure dans l'attente du jour du Christ.